Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Alors ce soir, nous parlerons de la réforme hospitalière de la loi Bachelot, également du cassage des centres IVG sur Paris et évidemment sur ses conséquences sur l'Est parisien. Et pour ce faire, j'ai ce soir avec moi Isabelle. Bonjour Isabelle.
Bonjour Gilles.
Bonjour Fabien.
Bonjour Gilles.
Bonjour Aude.
Bonsoir.
Qui sont tous trois du collectif Unitaire 20e pour la réouverture du centre IVG de Thenon.
Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Bien, on va peut-être commencer cette émission par un peu savoir pourquoi vous êtes rentré dans ce collectif, quel était votre parcours individuel et pourquoi Isabelle, tu es rentrée dans ce collectif toi-même ?
Alors pourquoi déjà nous avons appris, nous sommes femmes du 20e arrondissement et hommes du 20e arrondissement, nous avons appris en octobre en catimini que le centre IVG Thenon du 20e arrondissement avait fermé parce que le médecin était parti à la retraite. Voilà, et donc on s'est réunis en collectif en octobre pour mener différentes actions afin de rouvrir ce centre.
Donc il n'y a pas que ce centre-là apparemment à Paris qui est fermé.
Pas du tout, ouais. Il y a eu à Brousset, il y a eu Jean Rostand, la maternité de Saint-Antoine est menacée, Avicenne à Bobigny est menacée, et à Lyon ils ont failli fermer le centre IVG, et par leur bataille ils ont réussi à le réouvrir, mais ils restent vigilants.
Très bien. Aude, pourquoi tu es rentrée dans ce collectif ?
En fait, moi, je crois que je suis la plus nouvelle du collectif. J'en ai entendu parler dans le parti politique où je milite habituellement, en fait. Je suis féministe et j'ai envie que ma petite sœur, mes futures filles aient le choix. Donc, ça m'a semblé normal de rentrer dans le collectif. Voilà.
Très bien.
Fabien ? Moi, c'est Fabien. Donc, moi aussi, je milite dans un parti de gauche. Donc, bon, autant les citer, tous les trois, là.
Oui.
Donc, il y en a une, la première qui a parlé, qui est au parti de gauche.
D'accord.
Aude, qui est au NPA, moi, au PC. Il y a aussi des gens du PS, des Verts, de syndicats, etc. D'accord. Donc, c'est très varié.
C'est très unitaire, en fait.
Oui, c'est très unitaire. En fait, moi, c'est pas la première fois que je mets les pieds dans ce genre de collectif, parce qu'il y en a aussi pour les sans-papiers, etc. Et en fait, moi, j'y trouve du plaisir à fréquenter des gens. Enfin, c'est un petit milieu aussi, d'une certaine façon.
D'accord. Sympathique, on va dire.
Et voilà. Et puis ensuite, pourquoi je suis allé dans celui-là? Parce que bon, on m'a dit, t'es au PC, vous avez fait partie du collectif, faut qu'il y ait des gens qui aillent faire un tour. Et puis, à titre personnel, je me pose pas mal de questions sur tout ce qui est paternité, etc.
Est-ce que être féministe, c'est être de gauche? Ou est-ce qu'il faut être de gauche pour être féministe? Ou... Je sais pas, quand on vous voit tous les trois dans le collectif.
C'est une question que vous devriez même pas poser, quoi.
Si on revient, non, sur cette question-là, quand même, et puisqu'on parle de l'IVG, il y a quand même Simone Veil qui, en 1975, s'est battue, c'est une femme de droite. Voilà. Et elle a réussi à dépénaliser l'IVG. Donc c'est un combat de femmes, d'hommes aussi, et de droite ou de gauche. Je pense qu'on s'unit pour, voilà.
Est-ce que les femmes qui sont les plus faibles, on leur prend en compte leur CMUC dans les centres IVG?
Attends, on parlera ça peut-être dans la... Donc,
oui, oui. Alors, pour la CMU, en fait, c'est les hôpitaux qui prennent en charge. Ils ne sont pas pris dans les centres de planification. C'est pris en charge par les hôpitaux, les personnes qui ont la CMU, oui.
Très bien. Alors, si on peut juste faire un petit tour, Isabelle... sur un petit peu l'histoire, l'historique un peu de l'IVG, peut-être, et les plannings familiales en quelques dates.
Bon, alors, donc je parlais de Simone Veil en 1975. Donc avant, les IVG étaient clandestins. Donc il y a eu différents mouvements, le MLAC, le mouvement du planning familial, qui sont battus pour que cette loi puisse passer. Et il y a eu aussi des avocates comme Gisèle Halimi qui sont battues aussi en mettant en avant des procès. Donc en 1975 passe cette loi de dépénalisation de l'IVG. Ça a été très dur avec des débats houleux à l'Assemblée nationale. Ensuite, en 1979, cette loi est confortée et il y a une obligation hospitalière d'avoir un centre IVG dans chaque hôpital. Voilà. Ensuite, en 1982, il y a le remboursement par la Sécurité sociale. Et en 2001, il y a aussi eu des changements, alors dont le plus notable, c'est celui du délai, en fait. On est passé de 12 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire d'absence de règles, pour la limite de l'IVG, à 14 semaines d'aménorrhée. Voilà.
Ce qui a des conséquences importantes quand même.
Ce qui a des conséquences importantes, il y a d'autres pays où ça va jusqu'à 22 semaines d'aménorrhée. Donc on n'est pas dans les pays qui sont avec un délai des plus tardifs.
Alors dis-moi, Aude, parce que pour que l'auditeur puisse bien comprendre, qu'est-ce qu'un IVG exactement alors ?
Alors IVG déjà, ça veut dire interruption volontaire de grossesse. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est de provoquer finalement rien de moins qu'une fausse couche, en fait. Donc pour ça, il y a deux techniques. Il y a l'IVG par aspiration, avec anesthésie locale ou générale, et l'IVG médicamenteuse. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'IVG médicamenteuse, elle est réservée... elle est réservée aux gens qui n'ont pas eu leurs règles depuis cette semaine. Voilà. L'IVG par aspiration, ça va être à l'hôpital plutôt. En fait, il va y avoir une aspiration qui enlève l'œuf et la muqueuse utérine interne. Oui. Donc c'est quand même quelque chose d'assez lourd qui nécessite une hospitalisation dans la journée. Alors que la technique médicamenteuse, le principe c'est que la femme qui veut se faire avorter, donc qui a moins de 5 semaines, de 7 semaines de grossesse, va prendre un comprimé, va attendre 2 jours et ensuite va reprendre un comprimé pour provoquer la fausse couche en fait.
D'accord.
Le truc c'est que là, elle va être toute seule, c'est-à-dire que ça nécessite pas forcément d'hospitalisation. Et ça, en fait, c'est à la fois un progrès, parce que c'est quand même plus facile que la technique par aspiration, et en même temps, ça peut être un danger, parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, comme on va fermer les centres, etc., ça on en parlera plus tard, c'est que le gouvernement va être tenté de privilégier la technique médicamenteuse en passant à des délais plus longs. Par exemple, en Alsace, ils se font des tests pour passer à 9 semaines, alors que c'est quand même une fausse couche, hein, c'est quelque chose de très douloureux. Et 80% des IVG médicamenteuses en Alsace, c'est des IVG médicamenteuses.
Et comment ils font pour ceux qui ont des rejets de médicaments dans ces cas-là ?
Oh, c'est quand même assez sûr maintenant, enfin, c'est une technique qui est quand même... qui a été...
J'ai juste une question, excuse-moi de t'interrompre, j'ai juste une question par rapport à la pilule du lendemain, parce que quand on se rend compte qu'on va être enceinte, on peut prendre une pilule qui permet effectivement le... Oui, Isabelle ?
Alors, la pilule du lendemain, il serait bien de l'appeler pilule d'urgence déjà, parce que plus elle est prise tôt, plus elle est efficace, mais il faut savoir qu'elle n'est pas efficace à 100%. Donc, de toute façon, quand il y a eu un rapport non protégé, quel que soit le problème... et qu'on prend donc la pilule d'urgence, il y a quand même un risque d'être enceinte. Donc, au bout de 3 semaines, il faut faire un test de grossesse.
D'accord.
Donc, c'est pas une méthode efficace à 100% qui n'évite pas, en fait, les IVG à 100%.
Très bien. On va écouter une petite... Ah, excuse-moi, vas-y, Aude.
Non, juste pour rajouter là-dessus, c'est que de toute manière, on pourra jamais arrêter l'IVG à 100%. Il y aura toujours des cas où on aura besoin d'un IVG. Il faut savoir que la pilule, par exemple, c'est quelque chose de très contraignant à prendre. Un oubli, c'est vite arrivé. Et il suffit d'être malade, même une fois, pour que la pilule passe pas et qu'on ait besoin d'un IVG. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra pas complètement arrêter jamais.
Oui, c'était pour rajouter en fait.
Bien sûr, vas-y, je
t'écoute. En 2009, là, il y a l'inspection générale des affaires sociales qui a publié un intéressant rapport sur l'IVG.
Oui.
Et parmi les chiffres, enfin, il y a plein de chiffres dans ce rapport, mais il y en a un que je voulais citer, c'est qu'il y a quand même 42% des cas d'IVG. Donc, pas, qui concerne en fait des femmes qui avaient recours déjà à une méthode jugée théoriquement très efficace, c'est-à-dire pilule ou stérilée.
D'accord.
Donc les méthodes contraceptives, de toute manière, elles ne sont pas toujours malheureusement efficaces. Donc l'IVG.
D'accord. 42%, c'est quand même pas mal, effectivement.
Ah oui, c'est beaucoup.
Énorme.
En fait,
ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui sous-estiment ces cas.
Très bien. On va écouter une petite chanson, ensuite on ira dans le fond du problème. Hein.
Du matin au soir, il faut courir dans l'escalier, le monter, le descendre et le monter. Au ding-ding oppressant de la clochette qui sonne et qui ressonne et qui résonne et qui ordonne. Et la faire rouler du haut de l'escalier, les mâchoires serrées sur ta chère clochette. À jamais muette.
Eh oui.
Ça va, on vit.
Et oui, c'était une fabuleuse chanson, c'était Maudite Clochette de Juliette, bien sûr. L'histoire, c'était une femme de ménage qui se fait sonner par sa maîtresse, qui est très sévère apparemment, parce qu'elle l'appelle tout le temps pour n'importe quoi. Donc c'est une très belle chanson de Juliette. On va reprendre cette émission, c'est Mode d'emploi, l'émission des chômeurs précaires, avec évidemment nos trois colistiers qui vont parler donc de la loi maintenant Bachelot et la loi hospitalière, hein, la réforme hospitalière. Donc Fabien, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur pourquoi cette loi menace l'IVG ?
En fait, je crois qu'il faudrait déjà replacer les grandes réformes en cours dans le système de santé. Il y a eu, avant la loi Bachelot, la réforme dite de la T2A, c'est-à-dire la tarification à l'activité. C'est-à-dire que maintenant, les établissements hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, au lieu de recevoir des dotations globales pour fonctionner un petit peu comme il entendait, au plus près d'ailleurs des besoins des patients, se voit fonctionner dans un système, on va dire, entrepreneurial quasiment, puisque chaque acte est tarifé selon des grilles qui sont établies par le ministère, et donc ils doivent établir leur budget, équilibrer leur budget ainsi. Donc il y a cette réforme en fait qui est très idéologique en fait de la part du gouvernement, va probablement entraîner des dérives puisque certains actes vont être plus rémunérateurs que d'autres, et donc dans tout ça, l'IVG est un acte très très peu rémunérateur, puisque par exemple ça, je me trompe peut-être de quelques euros, mais bon, un IVG serait environ une intervention qui rapporterait entre guillemets dans les 300 euros à un hôpital, ce qui est inférieur largement au coût réel. Mais l'hôpital public, seulement public, est obligé de la pratiquer.
D'accord.
Donc chaque hôpital public qui pratique une IVG, en fait, perd de l'argent. Alors dans tout ça, ça s'ajoute d'autres réformes qui viennent accumuler les difficultés. Alors il y a à la fois la nouvelle loi Bachelot dite Hôpital Santé Territoire, qui elle a notamment pour effet de concentrer les structures hospitalières et de créer des grosses structures que d'aucuns qualifient d'usines, en fait. Puisque les gens rentrent, il faut qu'ils sortent le plus rapidement possible et pour faire du chiffre, en fait. Donc certaines femmes parlent d'usine à bébé pour certaines structures hospitalières, d'ailleurs. Et les structures de proximité, qui pratiquaient certes des nombres plus faibles d'accouchements, d'interventions chirurgicales, parce qu'en fait, là, on parle d'IVG, mais c'est d'autres services aussi qui sont amenés à fermer, sont malheureusement, les unes après les autres, fermées, quoi. Donc tout ça fait qu'il y a moins de santé de proximité, de plus en plus de grosses structures où les gens restent le moins longtemps possible puisque l'hôpital maintenant a intérêt à faire le maximum d'interventions. Et puis en plus de tout ça, on lui supprime les effectifs puisque rien que sur les hôpitaux publics de l'APHP en 2010, sauf erreur de ma part, il y aura plus de 1000 emplois supprimés.
D'accord.
C'est quand on sait déjà comment fonctionnent les systèmes d'urgence. Donc voilà, donc tout ça est assez dramatique.
Alors est-ce que ces restrictions budgétaires, ce sont les prémices d'une privatisation de l'hôpital public ?
D'une certaine façon, oui, parce qu'on va mettre les établissements en concurrence les uns avec les autres. Et donc, par exemple, sont fixés au niveau, par exemple, des autorités actuelles, des systèmes de seuil qui sont horribles, qui disent, si vous faites pas, par exemple, X 1000 accouchements, paf, je vous ferme la maternité.
D'accord.
Idem pour les urgences, enfin, idem pour les interventions chirurgicales, etc., etc. Donc, tout est fait, en fait, pour concentrer dans des grosses structures Et donc mettre à mal la santé de proximité, la santé pour tous en fait. D'accord. C'est ça le problème.
Ludo, tu voulais dire.
Oui, on dit que les tarifications sont relativement, enfin des actes médicaux sont assez arbitraires. Par exemple, vous disiez que l'IVG, le coût de l'IVG était bien plus important.
Alors en fait, l'IVG c'est un peu à part parce qu'en fait l'IVG ne rentre pas directement dans le cadre de la tarification à l'activité, mais son remboursement d'une certaine façon, enfin son comment dire le paiement à un hôpital qui le pratique sur une patiente est fait directement sur des crédits autres un peu. Et le montant payé à l'hôpital pour pratiquer une IVG est fixé par décret ministériel. Donc en fait, c'est un choix aussi politique que de sous-payer l'IVG.
Isabelle, oui.
Oui, l'acte donc d'IVG par aspiration, c'est exactement la même technique que pour une fausse couche. Et l'acte de la fausse couche n'est pas soumis au décret comme l'IVG. Et c'est 1000 euros en fait. Donc je rappelle le chiffre pour l'IVG, c'est 300 euros. Et 1000 euros pour la fausse couche pour exactement le même acte.
D'accord. Effectivement, c'est notable là quand même. Oui.
Et cette différence en fait de tarification s'explique pour quelle raison ?
Quand c'est fixé par décret, ce sont des choix. Hein. Mmh. Donc les choix, il y a des responsables politiques qui les prennent, et puis après, il y a des électeurs qui les réélisent ou pas. Hein.
Oui, mais on voit bien la politique des grandes villes où maintenant ils veulent fermer des hôpitaux pour faire que de grands hôpitaux énormes et tout regrouper.
Tout à fait.
Comment vous battez pour garder votre outil près des habitants et pas les envoyer à Petra ou Schnock
On passe la parole à Aude qui va peut-être intervenir sur le collectif.
Non, voilà, parce que quand même le collectif a fait un petit peu de travail. Donc en fait, il existe hein, depuis octobre 2009, à peu près octobre-novembre. On a fait quelques manifs, dont un à l'hôpital Thénon qui a fait pas mal de bruit. On a fait aussi une autre manifestation dans le 20e il y a un petit mois là, et on a été reçu par le président de la PHP qui nous a dit clairement quand même que c'est parce qu'on s'était battu sur l'hôpital Thénon qu'on avait soulevé la question à Paris du problème que causait la loi Bachelot. Donc ça bouge quand même. Faut savoir, comme l'avait dit Isabelle, qu'à Lyon, un collectif comme le nôtre, il n'en existe que trois en France hein, pour l'instant, a réussi à faire réouvrir l'hôpital. Donc voilà, on a quand même des résultats. On y croit.
Et notre collectif, il soutient aussi ces médecins qui travaillent dans les centres IVG, qui subissent ces regroupements et qui n'en veulent pas non plus. Donc eux aussi, ils sont contents qu'on se mobilise.
D'accord. Comment vous expliquez qu'il y a aussi peu de collectifs comme le vôtre en fait, qui se battent sur les fermetures de centres IVG ?
Bah, faut déjà savoir que la loi, elle est passée en juillet 2009, donc ça fait pas si longtemps que ça. Elle se met seulement en application en ce moment. Donc ils ont déjà pas mal tapé sur tout ce qui était psychiatrie. Bon, maintenant c'est les femmes, chacun son tour. Maintenant ça bouge vraiment, hein, parce que par exemple c'est à Saint-Antoine ou qui risque d'être fermé, et à Trousseau où la maternité aussi pareil est en danger. Les médecins, même les chefs de service se mobilisent et ça commence quand même à bouger pas mal. Donc ça va être je pense que ça va être une dynamique ensuite.
Donc à Trousseau, c'est le service de pédiatrie. Donc il y a Robert Debré qui est un grand centre, et il y a Trousseau qui est un des grands centres sur Paris. Et là, ça se mobilise beaucoup. Il y a déjà des stars qui viennent signer, etc. Voilà. C'est sûr que l'IVG, ça mobilise moins que la pédiatrie, mais ça commence à bouger. Et peut-être que par le biais de Trousseau, les gens vont prendre conscience de ce que représente la loi Bachelot.
Alors, je tiens à rappeler quand même à l'auditeur. Non, tu peux y aller, Fabien, tu peux prendre le micro. Pas de souci.
Oui, oui, il n'y a pas de souci.
Je tiens à rappeler quand même aux auditeurs que dans le cas de Trousseau, ils avaient passé des questionnaires donc aux clients. Je vais dire clients, mais maintenant clients, mais maintenant, c'était des patients aujourd'hui et des clients de demain, parce qu'apparemment ça va changer. Des questionnaires sur la satisfaction des gens par rapport aux soins, et qu'ils avaient le palmarès de satisfaction à 100% presque dans tous les domaines. Et donc ils vont partir à Debré, donc c'est un grand. C'est Debré, hein. C'est ça. Et c'est, je crois que, rappelez-moi bien ça, parce que je crois que c'est quelqu'un un médecin de Necker qui est autour de Bachelot qui a plus ou moins fait pression pour. Non, tu sais pas. Je sais pas.
Non, on n'est pas assez expert pour te répondre sur ce sujet.
Ok. Donc tu peux reprendre ta.
Non, je voulais rebondir un peu sur la question sur le peu de nombre de collectifs, enfin pour essayer de mettre ça en perspective, parce qu'en fait, fait, il y en a quand même beaucoup d'autres aussi collectifs en tout genre. On a vu récemment aussi le succès qu'a connu la consultation sur la Poste, par exemple. Et donc là, la caractéristique, enfin le parallèle qu'on pourrait faire, c'est que à la fois le collectif, la droit des femmes, etc., et la Poste, ce sont des collectifs qui regroupent à la fois des salariés, donc des services publics et des usagers, quoi. Et donc c'est quand même assez nouveau. Et même si on n'en parle pas beaucoup dans les médias, il y en a beaucoup qui existent donc sur différentes causes qui transcendent, on va dire, les courants militants classiques.
Donc votre espoir, c'est de gagner à votre cause le maximum de médecins, de personnel hospitalier.
Non, mais toutes ces luttes en cours, éventuellement, à mon avis, en fait, sont déjà plus nombreuses que ce qu'on le dit, et puis en plus permettent de réveiller un petit peu les consciences, parce que c'est vrai qu'en ce moment, après 2 ans de pouvoir Sarkozy, il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu la tête dans le sac, ouais. Et bon, effectivement, secouer un petit peu le cocotier, ça va finir par se réchauffer.
Alors, juste une question par rapport à la loi Bachelot. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a peut-être une sorte de lobbying des chrétiens intégristes, genre laisser les vivre derrière tout ça, ou... Parce qu'on sait que, par exemple, à la clinique Marc Cadet, souvent, ils venaient devant, au moment des IVG, ils venaient devant, ils s'attachaient pour pas que les femmes viennent faire leur IVG.
Bon, en même temps, les anti-IVG, je pense que ça existe depuis que l'IVG existe, quoi. Hein, c'est pas une nouvelle. Après, non, c'est pas forcément un lobby. Enfin, de toute manière, on n'a pas les portes secrètes qui nous permettraient de savoir. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un nouveau souffle, hein, assez dangereux, avec les jeunes pro-vie, là, pour le coup, qui sont vraiment de droite. Voilà. Mais en plus, ce que je voudrais dire, c'est que la loi Bachelot, elle va encore empirer ça. C'est-à-dire que on voit en ce moment, enfin, c'est de moins en moins, mais avec les centres de proximité, c'est aussi la multiplication des centres. C'est-à-dire que une femme qui va avorter peut aller dans un hôpital différent. Enfin, elle
peut
choisir.
Voilà. Prendre une clinique, oui.
Alors qu'avec une fois que ce sera un gros complexe. C'est lui qui va faire tous les IVG, du coin, et ce sera tellement plus simple pour les anti-IVG de bloquer un seul hôpital que de bloquer 3 ou 4 petits centres. Que là, il y a aussi un vrai risque, c'est vrai.
D'accord, merci.
Je voulais rebondir parce qu'en fait, moi, j'ai mon petit doigt me dit qu'en fait, des lobbies sont. Existe en fait, bon, les lobbies de Cato, enfin pour pas les citer, hein, etc. Et qu'ils ont même pénétré certains cercles du pouvoir. On l'a vu récemment avec un amendement bizarrement adopté ou refusé, je me souviens plus, à l'Assemblée, qui a fait en sorte que c'était l'église de la Scientologie qui devait être interdite. Vous savez, l'église de la Scientologie, c'est cette espèce de secte dont est membre un grand copain à Sarko, là, qui est acteur, là, j'ai oublié son nom. Et finalement, elle n'est pas interdite. Non, c'est un exemple, mais il y avait aussi l'ex-femme du ministre de l'Économie qui était membre de l'Opus Dei. Enfin, il y a des gens dans le cabinet de Sarkozy à l'Élysée aussi qui sont membres de l'Opus Dei, qui est une espèce de groupe fascisant ultra-catholique. Donc c'est, moi je crois qu'il faut vraiment se méfier de ces gens-là qui sont quand même plus dangereux que ce qu'on croit.
D'accord. Alors par rapport à la Poste, parce que je vais rebondir sur la Poste, il y a eu quand même 2 millions de personnes qui ont voté pour garder le service public de la Poste.
C'est exceptionnel.
Exceptionnel, hein, c'est quand même un référendum qui était apparemment illégal pour certains UMP, mais c'est en train de passer comme c'est en train d'être privatisé quand même.
Oui.
Alors vous, par rapport à ce collectif, quels sont les espoirs que vous portez sur vos revendications?
C'est-à-dire qu'en apparence, 2 millions de personnes qui votent pour garder la Poste en service public et le gouvernement qui n'écoute pas, en apparence, ça a l'air d'être une défaite, mais en fait, c'est une pierre à l'édifice des victoires de demain, en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir.
D'accord. Alors, où on voit les centres IVG fermés, vous trouvez pas qu'il y a un problème au niveau des médecins, où on va leur bientôt choisir, soit vous exercez au sein de l'hôpital, soit vous gardez votre cabinet en dehors de l'hôpital. Il y en a qui ont un cabinet dans l'hôpital et un cabinet dans l'hôpital. Alors, est-ce qu'ils vont, être obligés
de choisir
entre l'un et l'autre?
Attends, ceux qui ont des cabinets en dehors, c'est les grands professeurs, c'est pas le praticien titulaire. Donc bon.
Attention, vous savez que les hôpitaux publics tolèrent aussi des consultations privées pour garder les soi-disant, enfin pas soi-disant, parce que certains sont très bons, mais bon, c'est quand même choquant moralement, hein, qu'il y ait des consultations privées au sein de l'établissement public. Hein.
Alors, excuse-moi.
Après, sur le combat du collectif, je pense que déjà on a un truc qui est clair, c'est qu'on veut la réouverture du centre IVG de Thenon. Ça, c'est ce qui nous rassemble. Mais on compte vraiment pas s'arrêter là. Comme a dit Isabelle, on n'est pas vraiment à la pointe sur l'IVG en France. Quand on voit à 22 semaines en Espagne, voilà, c'est aussi, ça peut être aussi un but visé. Ce que nous, on veut, en tout cas, c'est, nous, on est plutôt basé dans le 20e, hein, puisque c'est, en fait, tenons, faut savoir, déjà, le 20e, c'est le deuxième arrondissement de Paris en termes de population, c'est 200 000 personnes. L'hôpital Tenon, il regroupait les femmes qui voulaient avorter dans le 20e, mais enfin, c'était aussi les femmes qui venaient de la banlieue, c'est-à-dire de Bagnolet et de Montreuil. Il a fait, en 2008, j'ai les chiffres, il a fait 523 IVG, ce qui est assez important. Et il a été fermé. Il y a zéro centre IVG dans le 20e maintenant. Sur 200 000 personnes, c'est quand même assez dramatique.
Il faut savoir que 200 000 personnes plus la banlieue, c'est à peu près une ville comme Rennes. Donc c'est énorme.
C'est énorme, effectivement.
Sans compter qu'à Neuilly-sur-Seine, il y en aurait 3, selon mes informations. Centre IVG, une ville de moins de 100 000 habitants.
D'accord. Ouais, mais est-ce que vous ne croyez pas que, voyant les centres IVG fermés, les femmes se retournent dans les centres IVG dans les autres pays européens?
En fait, voilà, c'est le risque. C'est en fait, donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, les femmes, elles vont être maintenant envoyées, en fait, dans d'autres hôpitaux. Donc là, ça va être Bleu et Trousseau. Simplement, Bleu et Trousseau, ils peuvent juste pas les prendre en charge parce qu'ils sont déjà au maximum de leur mesure. Donc, et puis, il y a un délai, hein. L'IVG, on le fait pas n'importe comment dans un claquement de doigts. On a 14 semaines en France pour le faire. On ne peut pas les dépasser. Faut savoir aujourd'hui, si moi je téléphone parce que je veux me faire avorter, j'ai 3 semaines de délai à attendre. Sur 12 semaines, c'est déjà assez énorme. Et le risque, ça va être déjà qu'on envoie les femmes dans des cliniques privées, parce que les cliniques privées, y a moins d'attente, forcément. Et si jamais elles ont dépassé les 14 semaines, qu'ensuite elles aillent vraiment à l'étranger. Et ça se passe déjà.
Alors donc, moi, j'ai une question qui peut être un peu idiote, c'est mais 24 semaines en Espagne, c'est pas un peu dangereux pour la femme, ça
Non, alors, on a choisi l'exemple de l'Espagne, mais en fait, la plupart des... C'est plutôt la Hollande et l'Angleterre qu'il faudrait montrer. Parce que l'Espagne, c'est... Il y a des critères, en fait, importants jusqu'à 24 semaines. Alors que la Hollande, c'est accepter n'importe quelle femme. Donc non, c'est médicalement, il n'y a aucun problème. C'est pas du tout dangereux pour la femme. Au contraire, plus on lui laisse le choix, plus mieux c'est pour elle. Si elle ne désire pas d'enfant, il faut savoir qu'en 1975, dans les grossesses qui étaient non prévues, c'était 4, le couple choisissait 4 fois sur 10 une IVG, alors que maintenant, enfin en 2000, c'est 6 fois sur 10. Donc, je veux dire, maintenant, les femmes, elles, et les couples, on peut dire, ils peuvent vraiment choisir d'avoir un enfant ou pas. C'est ça l'important, c'est de l'avoir quand on veut.
Mais est-ce que c'était pas un débat aussi des anti-IVG, hein, c'est-à-dire de savoir à quel moment on pouvait, le fœtus était formé et donc à quel moment, c'était un meurtre ou pas, enfin comme il l'exprimait à l'époque.
Moi, je crois que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. En fait, l'IVG, c'est choisir sa vie. Donc c'est comme disait Isabelle, c'est les couples aujourd'hui, c'est une tendance profonde de la société. Les gens aspirent à pouvoir choisir la vie qu'ils ont envie de mener. Donc y compris au niveau d'avoir un enfant quand je veux ou si je veux pas. Enfin bref, chacun selon ses aspirations. Et c'est une tendance profonde, à mon avis, on reviendra pas dessus.
Non, mais comment sur une femme qui est enceinte et qui aurait 5 jumeaux et qui voudrait se faire avorter, est-ce qu'il y a plus de risques sur les autres?
Ah oui, ça s'appelle une réduction, je ne sais plus
quoi. Oui, alors en général, les 5, c'est l'ordre de fécondation in vitro, hein, et il est proposé de toute façon au couple, on leur demande... Ou à la femme si elle veut garder l'ensemble des embryons qui ont été implantés. C'est déjà au tout début, ça fait partie du système.
Alors pour revenir, merci Isabelle. Alors pour revenir, merci pour ta question Thierry. Pour en revenir donc au principe de la loi Bachelot, donc la restriction budgétaire, éventuellement tout ce qui est d'ordre du politique ou du philosophique, puisqu'on parlait tout à l'heure des laisser les vivre. Comment ça va j'ai perdu ma question. C'est très bien.
Tu voulais revenir à la loi Bachelot.
La loi Bachelot, oui. La loi Bachelot, donc ça veut dire que c'est quoi les conséquences pour l'Est parisien, justement? Voilà, c'était ma question. Les
conséquences, c'est par
exemple. Déplacement des personnels médicaux,
C'est par exemple que le centre IVG de. Enfin, certains centres IVG ou maternité, parce qu'ils sont jugés non suffisamment productifs, puisqu'en fait, c'est comme ça qu'ils raisonnent en termes de chiffres. Aujourd'hui, ils ne voient que des chiffres, vont être amenés à être fermés, notamment. Citons pour exemple la maternité de l'hôpital Saint-Antoine, ce qui est quand même incroyable. Donc voilà, on peut la classer comme dans l'Est parisien quasiment, en fait, parce qu'il y a beaucoup de femmes du 20e qui vont accoucher là-bas.
Oui, mais en termes de quantité, parce que je n'ai pas le pourcentage de gens qui... Aujourd'hui, combien il y a de femmes en France qui se font faire un IVG, par exemple ?
Un IVG, nous sommes dans les 200 000 par an, en fait, et le chiffre est stable, en fait.
D'accord. Donc comme tu viens tout à l'heure par le chiffre Isabelle, donc ça veut dire que là, au niveau des files d'attente sur les autres hôpitaux, ça va être une catastrophe.
Ah bah oui, c'est déjà catastrophique.
C'est déjà catastrophique.
Hein. Donc en fait, le centre IVG Tenon est fermé. Et il reste deux infirmières à la retraite qui sont là-bas et qui font de l'orientation, c'est-à-dire qu'elles accueillent ou elles ont des appels téléphoniques, elles réorientent donc sur les centres IVG les femmes. Et en fait, ça sonne occupé, voilà. Et comme disait Aude, le délai moyen c'est de 3 semaines.
Est-ce qu'on a recensé les femmes qui n'avaient pas pu se faire avorter et donc qui avaient renoncé à un avortement en raison des délais? Ou est-ce qu'on a déjà des chiffres sur les conséquences, en fait, de la loi Bachelot, prévisibles de la loi Bachelot?
Vous parlez de délais, mais en fait, il n'y a pas que les délais qui font que certaines femmes renoncent. Il y a aussi la pression familiale, sociale, etc. Hein.
Donc c'est difficile. Ça, c'est un effet direct. Ça peut avoir un effet direct aussi. Je ne sais pas, la réduction de personnel, l'espace.
Le problème, c'est comment chiffrer ces personnes, puisqu'on les voit. Voilà, il y a toute une partie qu'on ne voit pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 5000 femmes qui vont à l'étranger chaque année. Voilà, ça, c'est un chiffre qu'on a, parce qu'elles sont venues et qu'elles ont pu être recensées. Mais toutes celles qui n'ont pas pu avoir quelqu'un au bout du fil, comment les recenser? Comment recenser celles qui ont attendu 3 semaines et qui ont été au-delà et qui n'ont pas pu se payer ce voyage en Hollande ou en Angleterre? Voilà, toutes celles-là, on ne peut pas les recenser, c'est impossible.
Et vous avez recensé aussi les personnes qui font un IVG par force de la famille, surtout sur certaines jeunes?
Ou alors il y a l'inverse, hein, parce que moi j'avais un autre chiffre à citer, simplement ce qu'on appelle les grossesses précoces, qui sont d'environ 10 000 par an quand même. Ce sont des adolescentes qui bien souvent sont amenées à arrêter l'école. C'est quand même pas franchement exceptionnel comme situation, quoi.
Par rapport aux autres pays européens.
Oui, tout à fait, Isabelle. Bon, déjà, en France, il y a quand même 10 000 adolescentes qui accouchent chaque année, ce qui est déjà énorme. Mais il faut dire qu'il y a des pays où c'est bien plus grave, en fait. Citons par exemple l'Angleterre, où c'est 4 fois plus élevé. Et le pompon, Gilles.
C'est l'Irlande, non? C'est pas l'Irlande?
Eh bien non, perdu. Ah. C'est les États-Unis.
Ah, d'accord.
Voilà, avec 10 fois plus de grossesses précoces.
Mais ils sont quand même 10 fois plus nombreux aussi.
Voilà. Mais bon, il paraît qu'on leur fait une réforme de la santé, donc ça devrait s'arranger.
Très bien. Par rapport à tu avais des chiffres à citer, non, par rapport à la réforme, non tu... Ah non, moi ce que je voulais parler, c'était par rapport où tu parlais des gens qui partaient à l'étranger pour faire des IVG. Ils vont où exactement? Quel est le pays qui est le plus permissif dans le cadre de l'IVG, justement?
Enfin, permissif. Non, permissif, en fait, là, sur l'île de France, le plus proche, c'est la Hollande. Voilà. Alors, en général, c'est prendre un billet pour le bus Eurolines à Gare de Bagnolet, arriver là-bas, après prendre une navette jusqu'au centre et rester, voilà. Et donc, le bus est de nuit et en tout, ça doit valoir à peu près environ 800 €. Et donc, ça, c'est pas du tout remboursé. Donc, voilà, il faut pouvoir avoir ces 800 €.
Très bien. Vas-y, je t'écoute.
Juste pour revenir au niveau de l'Est parisien, il faut bien avoir conscience que c'est quand même une attaque globale contre les femmes en général, parce qu'on parle de l'IVG là, mais comme on a dit, hein, à Saint-Antoine, c'est la maternité qui va fermer, c'est-à-dire la gynécologie, le centre IVG et la pédiatrie. Donc on parle de l'IVG parce que c'est notre collectif, mais c'est vraiment quelque chose de global. On va arriver à des aberrations. Moi, j'ai personnellement entendu des femmes qui accouchent dans un hôpital et leur bébé est envoyé dans un autre hôpital tout de suite parce qu'il n'y a pas la place. C'est vraiment des aberrations comme ça. Et ça peut que être de pire en pire avec.
C'est-à-dire qu'on sépare l'enfant de sa mère pendant qu'elle est. Après l'accouchement.
Voilà, et c'est le père qui fait la navette entre les deux, en fait. On arrive vraiment à des aberrations comme ça. En fait, c'est une attaque en règle pour la femme de la contraception à la maternité. C'est quelque chose de global. Il faut vraiment avoir cette idée en tête.
Il y a une chose qui va être encore plus catastrophique, c'est si on ferme les IVG et les centres d'accouchement, et ben c'est les écoles qui vont en périr derrière. Il y a moins de gens formés pour venir dans ces métiers-là.
Je ne sais pas que ce soit.
Éventuellement. Mais sinon, pour rebondir sur ce que disait Aude, en fait, le sous-équipement de l'Est parisien par rapport au centre d'IVG, mais moi, je me permettrais de faire un parallèle par rapport à d'autres types de différences qu'on peut noter avec l'Ouest. Hein. Mm-hmm. Par exemple, si vous prenez les couvertures phoniques d'autoroutes, si vous prenez les systèmes de transport, si vous prenez les cinémas, dans le 20e arrondissement, il n'y a aussi qu'un seul cinéma,
c'est vrai, par exemple,
pour une ville de 200 000 habitants, etc., etc. Et on note bien souvent que si vous prenez, par exemple, le projet de... Enfin, je vais encore politiser la soirée, mais bon, tant pis.
Tu peux le faire ici.
Je peux le faire, d'accord. Ah, ouais. Si vous prenez le projet, dans le cas du Grand Paris, de Grand 8, décidé par Nicolas Sarkozy, qui va nous coûter à nous, parce que c'est avec notre argent qu'on va le payer, 35 milliards d'euros, je crois, va essentiellement desservir encore un coup, comme par hasard, l'Ouest parisien, les Yvelines, la vallée de la Chevreuse, vous savez, le pays de... De, je sais plus comment elle s'appelle. Valérie, j'ai oublié son nom. Voilà, c'est ça, Valérie.
Il faut te le rappeler quand même.
J'ai oublié son nom parce qu'on a... Voilà. Non, mais c'est tout, mais bon, c'est quand même, malheureusement, c'est trop souvent le cas que les régions pauvres sont, comme par hasard, sous-dotées, alors qu'elles auraient encore besoin de plus de services publics, et bien on les leur enlève. Et c'est un scandale. Et ça peut plus durer. Voilà.
T'as bien, on va écouter une petite chanson, ensuite on reprend la parole.
Je veux dédier ce poème, belle passante, que l'on n'a pas su retenir.
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi des chômeurs et précaires. C'était Les Passantes de Georges Brassens, que je dédie à toutes les femmes qui nous écoutent. Et aux deux qui sont sur ce plateau, sans aucune discrimination. Voilà, il fallait que je le fasse, ou deux, je suis désolé. Facile. Puisque, bien sûr, ce soir, c'est une émission sur les femmes, on va reprendre cette émission, donc, sur, qui veut prendre la parole, sur les lieux, éventuellement, qui serait possible de créer pour que les choses se passent bien pour les IVG, non ?
Donc, oui, donc là, nous, on va revenir sur pourquoi on veut la réouverture du centre IVG dans le 20e. Donc, on veut un lieu de proximité pour limiter les délais d'attente. On veut aussi que ça se passe dans l'hôpital public pour que la femme elle puisse avoir le choix entre l'IVG médicamenteuse et l'IVG par aspiration sur place. Qu'elle puisse aussi, si elle fait l'IVG médicamenteuse, rester sur place si elle le désire. Donc pour qu'elle puisse avoir le choix. Ensuite, qu'il y ait tout le plateau technique, anesthésie, chirurgie, si ça se passe pas bien, dans un hôpital public. Et puis, voilà, il faut un lieu, c'est humain, donc il faut de l'écoute, de l'accueil, de l'information, et tout ça, ça prend du temps, donc on peut pas être dans des usines, donc dans du travail à la chaîne, c'est pas possible. Et ensuite, on veut regrouper en pôle. De toute façon, les hôpitaux ont des murs, ils peuvent pas s'agrandir, et donc c'est pas possible de faire rentrer tout le monde dans un seul hôpital. Donc rien que ça, c'est complètement aberrant. Voilà. Donc on veut une médecine de proximité, publique, humaine.
Très bien, merci Isabelle. Tu veux dire quelque chose en plus, non, sur le non ? Alors. Oui, Fabien, je t'écoute.
Non, parce que effectivement, Isabelle parlait de l'aspect humain, parce qu'il y a certains types d'actes, enfin, comme par exemple l'IVG, qui nécessite beaucoup de temps d'écoute, etc. Et malheureusement, il y a encore des réformes du gouvernement, comme les RGPP, qui suppriment des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires. Comme si, en plus, alors que le chômage augmente, hein, oui. C'est pas toi qui me contrediras, comme s'il fallait en plus en rajouter une couche à ce niveau-là. Quoi. Un autre scandale.
Le but, donc, c'est un fonctionnaire sur deux en moins. Donc c'est vraiment la casse du service public et les hôpitaux, ils font partie de ça. Et les centres IVG, voilà une conséquence.
Très bien. Alors, merci Isabelle. Alors, peut-on parler deux minutes sur un petit peu les perspectives des luttes en fait par rapport à vous, en dehors du fait que vous vouliez des pôles où il y ait de l'écoute, effectivement. Comment, sur combien de mois vous pensez que les choses peuvent éventuellement bouger, ou est-ce que vous fédérez un petit peu avec d'autres collectifs? Comment ça marche tout ça actuellement là aujourd'hui?
Pour te donner une ampleur des mobilisations qui ont eu lieu, il y a en novembre dernier, je crois que la manifestation que nous avions organisée avait rassemblé plusieurs centaines de personnes. Pas mal pour une manifestation locale. Donc ensuite, ouais, il y a des collectifs qui se créent, puis il y aura peut-être des manifestations plus parisiennes, plus nationales, qui, sait-on jamais, pourront déboucher sur des victoires.
Simplement, du coup, je vais donner quelques rendez-vous quand même assez importants. On est là parce que ça va être la journée des femmes le 8 mars. Et donc, du coup, on a prévu quelque chose, forcément. Donc, faut vraiment que les écouteurs se renseignent parce que, sur Paris, dans tous les arrondissements, il y aura forcément une manifestation sur les 100 ans de lutte pour les droits de la femme, dont l'IVG fait partie.
Donc, rendez-vous, de toute façon, est donné place de la Nation à 18h30. C'est le départ de la manifestation. Et ensuite, dans chaque arrondissement, est prévu des films, des débats.
Ouais, ça, c'est lundi 8 mars. Hein,
voilà, le lundi 8 mars, c'est la manifestation, donc 18h30, place de la Nation. Mais là, dès ce samedi, j'ai déjà participé ce mardi à un film qui s'appelait Histoire d'avortement, qui est un film de 1973 qui dure 2 heures, mais très très intéressant, sur donc tous les combats par rapport à l'avortement. Et donc il y a une série de films, de débats dans chaque arrondissement, en fait. Voilà.
Très bien, merci Isabelle.
Et sinon, il y a aussi un autre rassemblement important, c'est le 18 mars. Ce sera devant l'APHP, c'est au métro Hôtel de Ville, parce que là, c'est vraiment la question de l'IVG qui va être soulevée, donc il faut qu'on soit un maximum. Il faut savoir que la pression marche, hein, vraiment, parce que je disais tout à l'heure que le directeur de l'APHP nous a reçus parce qu'on avait fait pression. Il a dit lui-même qu'il allait discuter avec le directeur de Thenon, donc voilà, ça marche vraiment, et c'est pour ça aussi qu'on a mis en place une pétition qui rencontre un certain succès. Apparemment, on pourra la retrouver sur le site de la radio, c'est super.
Ah oui.
Simplement, je la donne, comme ça. Donc, c'est http://, donc comme d'hab, je signe, tout attaché, .fr/, pour le maintien du centre IVG Thenon. Avec chaque mot, en fait, il y a des tirets entre chaque mot, quoi. Pour le maintien du centre IVG Thenon. Voilà, c'est important de signer, c'est efficace.
Alors, pour rappeler justement que ce lien sera sur notre site, c'est www.mode-d-emploi.net qu'on pourra voir dès lundi sur le site, hein, donc vous pouvez y aller. Et vous pourrez également écouter cette émission et la télécharger aussi à ce moment-là. Tu voulais dire quelque chose, Fabien, en dernier lieu, oui?
Pour le 12 mars, en fait, dans le 20e... notre collectif sera présent lors de... Il y a un film qui s'appelle Histoire d'un secret qui a lieu à la Maison des Associations. Et il faut réserver, en fait, pour à peu près tous les films qui sont dans les différents arrondissements. Donc, il faut réserver dans chaque, par mail, chaque mairie ou coup de téléphone. Parce qu'il n'y a que 70 places à la Maison des Associations du 20e. Donc, le vendredi, je crois, 12 mars. À 19h, donc pour Histoire d'un secret, si vous voulez nous retrouver, discuter, il n'y a pas de problème. Donc la Maison des Associations, c'est vers le métro Jourdain. Je ne connais pas l'adresse exacte.
Alors moi,
une sorte de mot de la fin, en fait, parce qu'on arrive à la fin.
Oui.
Non, c'était pour une anecdote, en fait. Il y a beaucoup de femmes dans le collectif, très peu d'hommes. J'ai même pas eu besoin de me battre pour être là ce soir. Donc elles sont formidables.
Très bien, alors on va passer justement, on va rappeler les annonces. Hein, donc... samedi 6 mars de 17h à 22h à salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin dans le 11e à Paris, métro Voltaire. C'est Femmes Égalité qui organise donc une solidarité avec les luttes des femmes. Voilà, donc au programme, il y aura des stands de littérature, des lectures de textes, etc., etc. Il faut également rappeler que le 8 mars, c'est effectivement la manifestation la troisième manifestation de lancement des marches mondiales des femmes. Place de la Nation le lundi 8 mars à 18h30. Voilà. Et puis pour rappeler également, je vais vous dire ça s'appelle canal marche, donc canal au singulier, espace marche au pluriel, @wanadoo.fr pour savoir tout sur les marches des femmes. Voilà, donc allez-y. Ce sera également sur notre site dès lundi. Voilà, cette émission se termine. Je crois, oui, non, non, on peut encore attendre un petit peu, très bien. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, pardon, quelques chiffres. Comme c'est l'émission des femmes, j'en profite. Il faut savoir que les salaires des femmes sont inférieurs en moyenne à 24% à ceux des hommes. Les retraites sont en moyenne inférieures à 600 euros par mois. Les femmes représentent 80% des travailleurs pauvres. 85% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Les tâches ménagères, moi, c'est une liste, hein. C'est un peu à la, voilà, Prévert, hein. 80% des emplois à temps partiel, non, pardon. Les tâches ménagères sont encore assumées à 70% par les femmes. Une femme meurt tous les deux jours et demi
même,
sous les...
Ouais, c'est 80 aussi
c'est
pour les
80%
tâches.
Pour les tâches ménagères.
Ah oui?
Et ça, ça augmente à partir du premier enfant.
Ouais.
D'accord. Mais n'étant pas femme, c'est pour ça que je me suis trompé. Voilà, je serai pardonné.
Prends en compte la cuisine alors que c'est un loisir.
Oh. Alors, il faut que tu regardes, il y a un super documentaire d'une cinéaste où il y a un débat hyper intéressant sur la cuisine.
Ce voilà. Sera une autre émission.
Voilà. Et pour terminer, donc, juste un dernier chiffre. Alors ça, c'est quand même ça nous touche particulièrement, nous, les hommes aussi, parce qu'on est aussi parfois féministes, même quand on est un homme. Hein.
Malgré nous.
Heureusement pour vous.
Ludo, enfin. Alors, une femme est violée quand même toutes les 10 minutes, hein, donc ça fait quand même 48 000 femmes par an en 2002. Donc il faut que ça cesse, voilà. Et il y a quand même 18% de femmes à l'Assemblée nationale, ce qui est vraiment très, très peu. Voilà, donc là, je crois que cette émission peut se terminer. Merci, messieurs, dames, de l'avoir faite avec nous. Merci à tous les trois.
Merci de nous avoir reçus.
Voilà, merci.
Salut, Gilles.
Salut à toi, Fabien. Merci, messieurs, dames, de l'avoir écouté. Les filles, je vous embrasse. Une bonne nuit de mon garçon et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.
Bonsoir, les filles.
Bonsoir.